Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Par le bout de la lorgnette, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à la littérature, une émission qui s'intitule donc « Par le bout de la lorgnette », vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Cette émission, vous allez pouvoir la retrouver en direct un vendredi sur deux à 12h30, rediffusée le mercredi suivant à 18h10. Et vous pourrez également retrouver la sélection des livres qui seront décortiqués dans cette émission chez notre partenaire dans votre quotidien Le Midi Libre. Nous allons pour vous évoquer l'actualité de la littérature française et internationale, parler fiction, romans, poésie, autobiographie, albums jeunesse, bandes dessinées, magazines, expositions, art, et ce avec plusieurs intervenants. Ici présent autour de cette table, une voix si singulière que vous avez l'habitude d'entendre sur 48FM et que vous allez donc entendre encore plus. Bonjour Nico.
Salut tout le monde.
Et Louise Finiels qui tient la librairie mondoise La Lorgnette, d'où le nom de l'émission, vu que c'est Louise qui s'y connaît bien plus que nous et qui va proposer à ce comité de lecture différents ouvrages que l'on va ensuite vous proposer durant toute cette année. Des ouvrages passés à la loupe, épiés, scrutés, observés par le bout de la lorgnette. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
Également autour de cette table, notre critique chroniqueuse passionnée de littérature. Elle dévore 4 livres par semaine, cuisine sur du Boris Vian, bricole en réécoutant les émissions apostrophe, répond au questionnaire de satisfaction par des lettres enflammées et poétiques. Valérie Trémolière, bonjour.
Bonjour à tous.
Enfin, nous ne pouvions faire une émission littéraire sans l'association mondoise phare en matière de littérature qui, à longueur de journées, de semaines, de mois, d'années, propose, conseille, encourage à la lecture les amis de la bibliothèque. Bonjour Hélène Nivoliès.
Bonjour.
Alors, durant cette émission, qui pourra être délocalisée de nos studios, nous inviterons régulièrement d'autres personnes, des auteurs, lecteurs, acteurs de ce monde oublié que nous allons remettre en lumière, amis des lettres, des verbes, de la conjugaison et de la rêverie, avec un thème phare qui va être développé par émission. Il sera suivi de différentes chroniques. Pour aujourd'hui, c'est simple, nous sommes en septembre, c'est la rentrée littéraire. Héloïse nous a fait bosser tout l'été, nous avons eu la chance autour de cette table de lire en primeur des livres qui viennent tout juste de sortir. Une sélection a été faite et nous allons vous la présenter. Mais avant cela, pour démarrer cette émission, une rubrique, le coup de gueule d'Héloïse, Nico Jingle.
Non.
Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'il y a?
Je vous demande de vous arrêter.
Mais t'es pas possible, ça! Mais qu'est-ce que t'es que cette tête de con?
Je ne veux pas l'oublier. Non. Je ne veux pas m'en passer.
Eh oui, nous aussi, on a le droit de faire nos têtes de con quand on n'est pas content. Alors, Héloïse, qu'est-ce qu'il y a?
Alors, comme tu l'as dit, Ludo, c'est la rentrée littéraire. En ce moment, il y a 607 romans qui sont sortis, à peu près 400 français, dont 75 premiers romans. Et en ce moment, on ne parle que d'un seul livre. Et ça, ça m'énerve un petit peu.
On ne va pas le dire, le nom de ce livre.
Non, on ne va même pas prononcer le nom du livre interdit. Mais pour tout vous dire, le classement de la semaine dernière au niveau des ventes, le premier livre était celui dont on ne prononce pas le nom, le deuxième, l'Emmanuel Carrère, Le Royaume, et le troisième, le Bec BD. Donc, au niveau des ventes, ça se ressent, au niveau médiatique, ça se ressent aussi. Je ne trouve pas ça juste pour les jeunes auteurs qui publient cette rentrée littéraire, ils sont un peu le dindon de la farce, quoi.
C'était le coup de gueule, tu as eu raison de nous dire un peu ce que tu avais sur le cœur aujourd'hui dans cette émission.
Et surtout qu'en plus, c'est même pas elle qui l'a écrit.
Je ne sais pas.
Il paraît qu'il y a des nègres. Hein, on appelle ça des nègres.
Il paraît que les politiques ont des nègres, oui.
Ouais. Le mot est très mal choisi, je trouve, nègre. C'est assez absolument abject. Hein. Mais ça montre bien un peu dans quel état est notre communication sur la littérature aujourd'hui.
Et voilà, et c'est justement pour cela que nous allons parler aujourd'hui de ces auteurs qui méritent d'être mis en lumière. Alors Héloïse, nous allons commencer par Aurélien Delceau pour Madame Diogène. Alors, c'est un premier roman.
Oui, tout à fait, c'est un premier roman, c'est une très belle œuvre. Je vais laisser Valérie nous expliquait un petit peu qui était Diogène et ce qu'est le syndrome de Diogène. C'est important pour la compréhension du livre.
Un alcoolique, hein.
Pas tout à fait.
Voilà, parce que le titre qui a été choisi par Aurélien Delzo, donc Madame Diogène, l'important c'était pour la compréhension du livre, se poser la question, mais qui était ce Diogène ? Donc Diogène était, on peut l'appeler un philosophe de l'époque du cynisme, et c'était une personne qui avait décidé de se détacher de tout ce qui était matériel. Et petit à petit, en fait, alors qu'il vivait dans une jarre, on le connaissait
un tonneau,
aussi.
Ouais,
voilà, mais en fait, c'était une jarre, pour être précis.
C'est pour ça que j'ai dit alcoolique, c'est pour...
Non, ça n'existait pas encore, les tonneaux, à cette époque. Donc, c'était une jarre. Et il regardait les souris, comment les souris vivaient. Il se rendait compte qu'elles faisaient ce que bon leur semblait. Elles mangeaient quand elles avaient envie de manger, quand elles trouvaient à manger. Elles faisaient leurs besoins là où elles avaient à faire leurs besoins. Elles vivaient sans aucun bien matériel. Et en fait, ce syndrome de Diogène, c'est un syndrome qui existe vraiment. Il y a, rien que sur le département de la Haute-Garonne, ils ont recensé 60 cas l'année dernière. Ce sont des personnes qui, petit à petit, vivent reclus chez eux et se coupent complètement du monde extérieur.
On appelait les ermites, c'est ça, un petit peu.
Voilà, ouais. Mais voilà. Et, par contre, ils n'ont plus aucune hygiène, ils stockent beaucoup de choses. En fait, c'est pas forcément des collectionneurs, c'est plutôt des syllogames, donc ils collectionnent tout, ils gardent tout. Mais sans classer, sans ranger. Donc petit à petit, on se retrouve avec une salle de bain dans laquelle il y aura tous les habits, les personnes feront leurs besoins où bon leur semble. Donc on vit dans un grand capharnaüm et petit à petit, on ne reçoit plus personne chez soi.
On s'abandonne un petit peu.
Voilà. Et on redevient un peu animal. Et dans le livre, il y a quelques extraits qui montrent bien le passage de l'humain vers l'animal.
Parce qu'en fait, le personnage principal donc de Madame Diogène est une dame, une personne âgée, on suppose, et donc qui est atteinte de ce syndrome. Et c'est vraiment une plongée vertigineuse dans cette folie de Diogène. Et elle accumule toutes sortes de choses. Elle crée des galeries dans son appartement. Elle se terre dans des terriers. Les ordures en fait montent jusqu'au plafond, quoi.
D'accord.
Et donc on voit le monde à travers les yeux de cette femme, et en même temps c'est j'ai trouvé ça très poétique. C'est une autre vision du monde, vraiment totalement différente de ce qu'on connaît, et à travers les yeux donc de cette folie, c'est un peu une icône rebelle en fait, cette Madame Diogène. Moi je la vois comme ça en tout cas. Donc on va vous lire un petit passage pour vous montrer.
Par exemple, sur ce que peuvent ressentir les voisins lorsqu'ils s'approchent de l'appartement, puisqu'elle habite un appartement. L'air extérieur a ravivé l'odeur de pourriture totale qui assaille partout l'atmosphère de l'appartement, montant du sol, transpirant des murs, s'échappant des meubles engloutis, s'exhalant à chaque chose. Elle se sent déjà mieux, reprend des forces en respirant cette horrible infection. C'est dehors que ça pue. Dans l'air pur et dans les parfums, ils en crèveront, elle en est sûre. Ils en crèveront tous.
Voilà, donc c'est vraiment un très beau premier roman, très abouti. C'est
on fait se croirait chez Ludo. Un peu.
je suis en chantier, moi. C'est pas
pareil. C'est parce que lui, il est en chantier, c'est pareil, il en a partout.
Oui.
Oui, donc c'est une très belle écriture, c'est des courts chapitres, ça se lit facilement, donc je le conseille vraiment à tout le monde.
C'est très beau, voilà. C'est pas parce qu'elle vit dans ses ordures, dans ses excréments, dans ce que nous, on ne pourrait pas tolérer, que ça se ressent dans le livre. C'est tellement bien écrit que c'est poétique.
Oui, c'est de la poésie.
Ouais,
ouais.
Ouais.
Donc, Madame Diogène.
Voilà.
Hein.
Aurélien Delso, et c'est chez Albin Michel.
D'accord. Donc, on peut le trouver aussi à la lorgnette.
Tout à fait.
Oh.
Très bien. On va passer au second ouvrage, La famille Middelstein. Hélène Nivolliès, vous avez passé votre été à lire dans cet ouvrage.
Pas que celui-là. Non.
Et pas que celui-là. Et oui, les amis de la bibliothèque.
Ça dévore
beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur ce roman ?
Bon, alors d'abord, je vais vous lire le quatrième de couverture pour vous donner un petit résumé. Donc, bienvenue chez les Middelstein, et pas chez les Middleton, comme certains me disent.
Qui a dit ça ?
Une famille au bord de la crise de nerfs depuis que Eddie, la mère, risque d'y passer si elle ne prend pas au sérieux ses problèmes d'obésité. Cerise sur le gâteau, le père la quitte pour découvrir à 60 ans les affres du speed dating. Une trahison impardonnable pour leur célibataire invétéré de fille, un rebondissement que voudrait bien oublier le fils en fumant son joint quotidien, si sa femme ne s'était pas mise en tête de sauver Eddie à grand renfort de Pilate et de Weight Watcher. Quand elle n'oblige pas les jumeaux à répéter la chorégraphie hip-hop pour leur bar mitzvah. Une question taraude toutefois les Middlestein, et s'ils étaient tous un peu responsables du sort d'Eddie. Donc c'est un best-seller du New York Times dans la lignée de Jonathan Frazen, un livre universel sur le mariage, la filiation et l'obsession de notre société pour la nourriture, porté par un humour aussi cinglant que désopilant et une humanité débordante. Donc cette femme est obèse, c'est le problème de sa vie. Son mari.
C'est la thématique du central du livre, quand même. Hein. C'est l'obésité.
Ouais. Et c'est elle qui crée tous les problèmes dans la famille. Parce que le premier problème, c'est le mari qui s'en va. Il va chercher des jeunettes.
Mais il explique pourquoi il s'en va. On a l'explication.
Oui, on a l'explication. Et parce qu'il n'a plus aucune attirance pour sa femme. Il n'y a plus aucun discours entre eux. Il n'y a plus aucune relation. Donc il préfère partir. Mais elle le supporte mal. Et ses enfants le supportent encore moins bien. Surtout sa belle-fille.
Ça a l'air d'être une famille folklorique, quand même.
C'est une famille folklorique.
Les personnages sont très, très dépeints.
Sont bien dépeints, oui. Et ce sont des juifs, déjà. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Mais à part les rituels juifs, il n'y a pas de différence avec une famille normale. Le seul problème, c'est cette obésité qui est présente dans tout le livre. Donc, on peut vous en lire quelques extraits. Ouais. Par exemple.
C'est vrai qu'ils ont une relation avec l'alimentation qui est vraiment particulière par rapport à leur religion, notamment dans la religion judaïque. Normalement, l'alimentation, c'est quelque chose de très cadré, avec des rites, comme tu disais.
Des codes, oui.
Des codes, on ne mélange pas la viande et le laitage. Et là, on se dit, vu l'éducation qu'elle a reçue, puisque son père était quand même un immigré juif qui était très, justement, très pratiquant, la synagogue était vraiment leur deuxième famille, on est presque étonné qu'elle ait cette relation-là avec la nourriture. Et pour donner une idée, donc là, c'est le passage que je vais lire, c'est un passage où elle va avec sa belle-fille, qui est une accro des régimes du bien-être, du soja et de l'eau minérale, et elles vont donc au restaurant dans un restaurant asiatique. Donc l'extrait. Puis la nourriture arriva sur la table, fumante, bouillonnante, décadente. Des dizaines de plats remplis de mets trop riches, gorgés de sel et de sucre, brioches bien dodues fourrées à la viande de porc, brocolis verts vifs recouverts d'une sauce épaisse d'huîtres, nouilles au sarrasin agrémentées de crevettes allègres douces, poulet laqué, palourdes charnues nageant dans une délicieuse sauce aux haricots noirs, baignées aux poireaux et à la coriandre, raviolis garnis d'un fruit de mer ou d'un mollusque étrangement, mais délicieusement pimenté, dont Robin ne parvint à se déterminer la nature. Quelle importance de toute façon. Elle goûta un peu de chaque mets. Robin, la sainte patronne des grosses devenues minces. Tout était succulent. Là-dessus, rien à dire. Monsieur Song avait du talent. Mais il y avait beaucoup, beaucoup trop à manger. Et tout, absolument, tout était mauvais pour sa mère. Ces gens ne voyaient-ils pas qu'elle souffrait, Eddie ? Ignoraient-ils que chaque bouchée de brocoli ou de poulet en sauce la rapprochait d'une mort certaine ? Et tout
oui, c'est bien écrit. Hein,
c'est bien écrit. Ouais. Ça donne bien faim. Décrit.
Ça donne faim. Alors, il y a le passage sur le fast-food, ça donne pas faim. Non, le passage sur le fast-food.
Oui, que je vais vous lire après.
Mais quel est le propos, en fait, de ce bouquin ? Qu'est-ce qu'il cherche à démontrer ? Il cherche à démontrer quelque chose ? Il parle de ce phénomène qui prend de l'ampleur dans le monde ? L'obésité, non, c'est ça ?
Oui.
C'est un témoignage, c'est quoi ?
C'est pas... Non, moi, je pense que c'est plus un fait de société qui est décrit. Plutôt qu'un message qui est apporté. D'accord. En disant que, bon, on ne racontera pas l'histoire, parce que sinon, si on va plus loin, ça dévoilerait. Ouais. Non, on ne peut pas dévoiler, sinon ça va enlever toute la magie du livre pour le lecteur. Mais c'est surtout ce côté qui ressort, c'est ce côté nourriture qui est décrit, comme le disait Valérie, j'allais dire Nathalie, tout au long du livre, il y a des pages qui sont décrites. Bon, à un moment donné...
On en a plein la bouche, quoi.
On en a plein la bouche. À un moment donné, elle explique, Eddie, la mère, qu'elle a décidé de faire le régime, donc elle prend un McDo, un Big Mac, pardon, et elle enlève la tranche de pain du milieu parce qu'on lui a dit, quand elle faisait son régime au Weight Watcher, que le pain faisait mal. Alors, elle aurait bien levé les deux autres morceaux, mais c'est pas commode à manger, donc elle les garde. Voilà, c'est tout un tas de.
Ça a l'air assez drôle, quand même.
Oui, oui, c'est quand même décrit humoristiquement.
Oui, il y a quand même de l'ironie.
Oui, il y a de l'ironie.
Ouais,
ouais. C'est très, très intéressant.
Ouais, il pourrait en tirer un film de ce livre, d'après ce que vous nous décrivez. Il y a des livres qui se prêtent à ça, vraiment.
Celui-là, oui, je pense que ce serait.
Est-ce qu'elle cuisine, en fait? Est-ce que cette femme cuisine ou est-ce qu'elle consomme juste?
Non. Elle ne cuisine pas, elle va au restaurant, elle va au fast-food. Donc, on va lire, par exemple, ce passage...
On ne cuisine pas aux États-Unis.
Non, il y a des fast-food.
Clichés. Moi, je croyais, toutes les séries que je regarde, elles sont toujours en train, avec des bonnes bouteilles, en train de se faire des petits plats.
Ah, des bouteilles, oui, mais pas des...
Tu regardes trop Desperate Housewives.
Justement, c'est d'art, c'est vrai que je ne regarde pas.
Alors, par exemple, à un moment donné, Rachel, sa belle-fille... qui a décidé de sauver sa belle-mère, la suit, va la voir un jour parce que son mari vient de partir, donc elle la plaint, elle dit quand même, la pauvre, je vais lui tenir compagnie. Et puis au moment où elle arrive, elle la voit avec son vison, donc elle dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Elle monte dans sa voiture, elle s'en va, donc Rachel la suit. Et voilà qu'elles arrivent sur le parking du McDo. Donc Eddie passe à sa commande sans sortir de sa voiture, récupéra les articles au guichet du drive-in, et regagna l'avenue principale quelques minutes plus tard. Mais au lieu de rentrer chez elle, elle partit en sens inverse, toujours talonnée par Rachel, désormais dévorée par une curiosité morbide, et se rendit dans un Burger King, également équipé d'un drive-in. Là encore, Eddie commanda en se penchant vers le micro, puis récupéra rapidement ses articles quelques mètres plus loin. Avant de quitter les lieux, elle s'arrêta devant une poubelle, baissa la vitre, et jeta le sac McDonald's vide et froissé. Il fut rejoint une seconde plus tard par un grand gobelet en plastique délesté de son contenu. Lancé d'une main sûre, le projectile atteignit sa cible sans même heurter le bord de la poubelle. Donc c'est tout au long du livre, des passages comme ça décrit. C'est comme tu disais, c'est assez bien décrit pour faire... On voit tout à fait l'image. C'est assez intéressant.
Et en gros, beaucoup de vocabulaire par rapport à tout ce qui est alimentaire. Même quand il parle des relations justement du futur ex-mari qui s'en va draguer sur Internet, il y a tout le temps un vocabulaire qui rappelle l'alimentation.
Rappelez-nous l'auteur.
Jamie Attenberg. Le titre, La famille Middelstein, et c'est aux éditions Les Escales.
Et en fait, c'est une chroniqueuse du New York Times. Oui. C'est son premier roman qui est traduit en français. Voilà, c'est son quatrième roman, mais c'est le premier qui est traduit en français. Ça fait donc un an et demi qu'il est sorti aux États-Unis. Aux États-Unis, la couverture, c'est un emballage de fast-food dont je ne tairai le nom, avec des petits hamburgers.
Trop tard, ça a déjà été fait.
Voilà, des petits sodas sucrés.
Je ne sais pas c'est lequel. Il y en a plusieurs qui ont été cités.
Alors, pour les auditeurs qui seraient intéressés par ces livres, bien sûr, on peut les retrouver à la lorgnette, mais aussi, vous pouvez retrouver la trace de tous ces documents sur le Midi Libre, qui fera un petit encart.
La sélection de l'émission par le bout de la lorgnette, on ne connaît pas encore la date, on vous le dira la prochaine fois, mais ça va bientôt arriver. Et bien sûr, cette émission sera réécoutable, je vous l'ai dit, le mercredi à 18h10 et podcastable. Et les amis de la bibliothèque pourront rappeler, si on vient se renseigner, ces livres et peut-être les trouver.
Les trouver à la bibliothèque, oui.
Très bien, troisième livre, Pierre Bordage, Un jour la guerre s'arrêta, Nico.
Ah oui, alors là, un beau coup de cœur, hein. Je suis vraiment, merci Héloïse. Pierre Bordage, on le connaissait par ses romans de SF, hein, un essayiste, c'est quelqu'un qui fait aussi un petit peu de radio, qui a fait des scénarios pour la télévision, qui a fait pas mal de choses. Le résumé peut-être de ce livre un peu atypique, un enfant étonnamment mûr et plein d'empathie pour l'humanité, mais ignorant de notre monde, parce qu'il a perdu la mémoire en fait, comme un nouveau petit prince perdu dans notre présent, visite la Terre et partout d'un endroit à l'autre, s'étonne et souffre de ne voir que conflit. Cruauté, tuerie, viol, lapidation, malheur. Et partout, pour les bourreaux comme les victimes, la violence détruit l'humanité. L'enfant propose alors aux hommes de faire taire les armes et leur accorde une trêve. Alors, on ne va pas aller plus loin dans l'histoire parce que c'est assez simple comme histoire, en fait. Hein. C'est une épopée un peu humaniste d'un enfant qui pense comme un adulte et qui pense naïvement que le monde est bon et que les solutions sont simples pour nous rendre la vie meilleure. Pierre Bordage, dans ce roman, nous dévoile sa vision du monde et des êtres humains parfaits. Il nous pose des questions sur nos comportements, nos propres comportements, sur nos désirs, nos compassions, nos fantasmes. Le rapport de l'homme au pouvoir, par exemple, le rapport de l'homme à l'argent, à la domination des autres. C'est un roman qui est extrêmement bien écrit avec de nombreuses métaphores. On parle d'amour, on parle de détresse, on parle de religion, on parle d'esthétisme, on parle d'argent et bien sûr on parle de guerre. Les questions que pose l'enfant à la recherche de sa mémoire aux hommes sont naïves, mais ô combien justes et pertinentes. A-t-on oublié qui nous sommes et pourquoi nous existons ? C'est une réflexion à la fois sur la vie et sur notre humanité, ou celle qui nous manque parfois, sur le pouvoir aussi qui est en nous et que nous avons oublié, celui de parler à la matière. Vous savez, des fois, quand on tape dans un carton, il fait celui-là. Et finalement, dans ce bouquin, c'est de prendre conscience de notre environnement. C'est plus que ça, plus que de parler à la matière, c'est certains hommes ou certaines femmes parlent à la matière par leurs mains. Le cuisinier, dont on a parlé tout à l'heure, le boulanger, l'ébéniste, ils travaillent avec le vivant, voilà, avec la matière. Et je pense qu'on perd ça. Et c'est vrai que dans notre société, on perd un petit peu tout ça.
C'est philosophique, comme ça a l'air assez philosophique comme ouvrage.
C'est philosophique, mais c'est philosophique dans l'esprit, pas dans l'écriture, en fait. Hein. Voilà. Les images que nous donne à voir Pierre Bordage sont pleines de poésie et de sagesse. On ressort de cette lecture avec beaucoup d'empathie et de plaisir. Donc un très beau roman que je conseille absolument. Alors, par exemple, un extrait de ce bouquin, c'est « Les enfants ne jouissaient vraiment d'aucune considération dans le pays des hommes. Non seulement ils n'étaient pas invités à réfléchir et à chercher des solutions avec les chefs de l'humanité, mais ils n'étaient pas censés aborder des sujets aussi simples et fondamentaux que l'être et la pensée. Ils n'avaient pas renoncé à la possession la plus ardue à extirper de lui-même, à l'illusion la plus difficile à discerner parmi celles qui se riaient des êtres humains, la certitude d'être dans la vérité. Je m'abstins de leur dire que le miracle n'était pas un événement exceptionnel, que le miracle était la norme, que leur vie était elle-même des miracles, que l'univers entier était un miracle. » Alors Pierre Bordage, en fait, c'est un auteur qui aujourd'hui est âgé, un petit peu âgé, il est né en 55, en Vendée. Voilà, pas si vieux, non. C'est quelqu'un qui a fait un doc de lettres modernes à Nantes, il s'est arrêté après ça. Il découvre, lors d'un atelier d'écriture en 75 à l'université, la science-fiction à travers... le livre « Les chroniques martiennes » de Ray Bradbury. J'en profite pour dire que l'ASF, ce n'est pas de la sous-littérature, comme c'est souvent considéré. Voilà, qu'il y a des très très beaux ouvrages, que si vous ne devez en lire qu'un, lisez au moins celui-là, « Les chroniques martiennes » de Ray Bradbury, voilà, qui est pour lui une véritable révélation. Alors, il ne fait pas que de l'ASF, il écrit beaucoup de choses, dans plein de domaines, des nouvelles, ce que je disais tout à l'heure, des scénarios pour le cinéma. Voilà, il a reçu de nombreux prix. Il a fait aussi de nombreux ouvrages. On peut retrouver aussi quelques vidéos de lui, parce qu'il y a certaines associations qui ont mis en ligne ses vidéos et ses entretiens. Et il a, dans ses diverses interviews, il parle un petit peu de ses prédilections. Il dit par exemple, comment éviter l'enfermement humain, d'être prisonnier de quelque système que ce soit, la politique, les religions, le matériel. Il essaye de dégager une relation libre avec la matière. L'idée est que tout n'est qu'illusion, et que l'on est pris par cette illusion. Je suis empreint de ma liberté intérieure, contrairement à la religion, qui est un vrai système de pensée qui emprisonne l'esprit. La SF est une mythologie moderne. L'être humain placé dans un autre système se révèle. C'est une façon d'explorer l'âme humaine. Chronique martienne de Ray Bradbury, littérature, qui vous prend et qui vous fait décoller.
Tu l'as lu, Héloïse, aussi, également ?
Oui. Ce que je voulais dire, enfin Nico en a très bien parlé, donc je vais rajouter juste une petite chose. C'est vrai que cet enfant rencontre, au fur et à mesure de son voyage dans le monde des humains, il rencontre plusieurs personnes, et c'est des portraits vraiment magnifiques de gens, parce qu'en fait, cet enfant, il peut lire dans les âmes des personnes. Et ça, c'est un très bon procédé littéraire pour faire des beaux portraits. Et à chaque fois qu'il s'en va ou qu'il rencontre quelqu'un, il a cette belle formule, il dit « Je les entourais de mon amour ».
Et je les entoure de tout mon amour.
Oui, de tout mon amour. Et en sortant de ce livre, j'étais vraiment entourée d'amour. Vraiment, c'est assez incroyable. C'est un livre très positif. Et souvent, à la librairie, on me demande des livres positifs parce qu'il y a des livres qui sont assez plombants en ce moment. Et ça, vraiment, c'en est un. C'est loin d'être naïf et c'est plein d'amour.
Pourtant, il dit justement, il disait dans une interview qu'il avait l'impression que ce livre allait être pris pour un
oui,
livre
oui,
naïf.
Oui,
quoi.
Il avait peur effectivement que les gens le prennent comme ça, mais vraiment, à partir du moment où on prend la peine de le lire, l'impression est balayée. Ouais.
Ça va souvent ensemble, naïveté et amour.
Ah bon ?
Oui, oui. C'est quelle maison d'édition ?
Alors, c'est Au Diable Vauvert.
Au Diable Vauvert, édition gardoise.
Il a écrit aussi un autre bouquin qui est passé un peu sous silence et qui parle de la Lozère, étonnamment. Parce qu'il a beaucoup écrit, c'est assez spirituel quand même, Pierre Bordage. Il a écrit L'Évangile du Serpent, voilà, qui parle d'une situation qui se passe en Lozère. Voilà. Après, il a écrit aussi. Il a aussi fait un très beau livre qu'on retrouve plutôt en bande dessinée, mais aussi en vidéo, puisque ça a fait l'objet d'un dessin animé, en fait, hein, d'un film, qui s'appelle Kaena la prophétie, que je vous invite à découvrir. Vous tapez Kaena la prophétie, le court-métrage qui traite de cette histoire, en fait, sur un arbre et sur la sève de l'arbre. C'est magnifique, franchement, c'est scotchant.
Et oui, on en revient à la matière, justement, avec la sève de l'arbre. Enfin, c'est toute une réflexion.
Oui, sur la vie, sur la spiritualité, sur l'empathie, sur l'âme, sur...
Un roman coup de cœur plus peut-être le roman de cette rentrée, Louise Fernandez Malon, on dit Maillon.
Augustin Malo. Fernandez Malo. Malo.
Avec Dans les avions, l'horizon n'existe pas. Un très beau titre.
Oui, tout à fait. Un très beau titre à rallonge, comme c'est un peu la mode en ce moment, mais voilà. Donc c'est chez Alia, une petite maison d'édition. Et donc, effectivement, c'est un énorme coup de cœur. Après, j'ai pas tout lu, donc j'en aurais sans doute d'autres. Mais là, ça a été vraiment une révélation pour moi, ce livre. Donc, je vais d'abord vous parler de la forme, parce que c'est assez particulier. C'est une suite, en fait, de flashs, d'informations scientifiques, de personnages, d'histoires particulières. Et ça s'enchaîne, c'est vraiment des courts chapitres.
Qui font référence, en fait, à des entretiens.
Oui, voilà, il y a aussi des références à des entretiens.
Einstein,
des
tas de choses.
Des musiciens, enfin, il y a tout un tas de choses, c'est vrai. Et c'est assez haletant parce qu'il y a un rythme, quoi. Il y a un vrai rythme dans ce livre. Donc, par exemple, dans les personnages, je vais vous parler de quelques personnages que j'ai bien aimés. Il y a J, c'est un artiste qui peint les chewing-gums dans les rues de Londres. Parce que ça l'exaspère de voir tous ces chewing-gums, donc il les peint et il crée une espèce de constellation sur le trottoir. Enfin, c'est très beau. Il y a Ernesto qui est un architecte aussi qui travaille dans les docks, qui conduit une grue, mais qui le soir, pendant son temps libre, il construit un plan pour un projet architectural qui s'appelle la Tour des Suicidaires, donc l'endroit parfait pour se suicider. Il y a une scientifique qui est à la recherche, une recherche impossible d'ailleurs, de la peau bien conservée d'un tyrannosaure. Enfin voilà, c'est des personnages très différents.
Et très atypiques aussi,
oui,
à chaque
très
fois.
Atypiques, très solitaires aussi. Mmh. Et pourtant, ils vont se rejoindre par des indices. D'une certaine manière, tout est lié dans ce livre, tous les passages sont liés.
Alors ça, bon, il faut dire qu'au début du bouquin, en fait, on a tous ces passages-là, on se dit, mais il n'y a aucun lien. Bon, c'est page après page. Et progressivement, il fait référence, on revient à ces personnages, et progressivement, l'histoire se construit.
Voilà, tout à fait. Je trouve ça, c'est la magie de ce livre. C'est-à-dire que c'est un puzzle assez incroyable. Et on prend plaisir vraiment à découvrir tous ces indices et à faire le lien, parce que les liens sont quasiment imperceptibles. Enfin, et pourtant, il y a toujours un lien.
C'est un peu un mode d'emploi de Pérec à la sauce internationale.
Voilà, tout à fait. Oui, c'est exactement ça.
Alors, c'est son deuxième ouvrage. Après Nos, il y a Dream.
Parce qu'en fait, ce projet-là, c'est un projet assez ambitieux. Hein. C'est une trilogie qu'il veut faire sur ce mode-là. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est très ambitieux, je trouve, de sa part, de ce projet littéraire.
C'est un écrivain espagnol, c'est ça ?
Oui.
Oui.
Espagnol. Alors, ce monsieur, en fait, il fait de la recherche dans la particule nucléaire. Donc, c'est un scientifique à la base, hein. On retrouve, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est tout à fait ça, il décortique les personnages, même dans sa phraseologie, c'est très dichotomique, je ne sais pas si je peux dire comme ça, mais en tout cas, c'est très haché, c'est très pointu, quoi. Hein.
Tout à fait. Enfin, voilà, moi, je le conseille aux lecteurs quand même aguerris, et moi, à partir de la cinquième page, j'ai pas pu m'arrêter, j'ai lu toute la nuit, quoi.
Alors peut-être juste vous lire un tout petit passage. En fait, c'est sur une des pages, la page 30. Il y a marqué « Entretien avec Pablo Gil » et puis c'est Björk qui parle. Parfois, les rythmes de tes chansons sont en relation avec les rythmes de ce qui les entoure, que ce soit la nature ou la ville. D'autres sont très intimes et semblent accompagner les rythmes du corps, du cœur. Elle répond. Il y a un peu de ça parce que beaucoup de mes chansons sont à 80 battements par minute, qui est en fait le rythme du cœur quand tu marches. J'écris presque toutes mes chansons en me promenant. C'est pourquoi il y a de ça. Mais ce n'est pas quelque chose que je veux faire délibérément, qui est conscient. Voilà, ça s'arrête là. Et on a plusieurs extraits comme ça de ces rendez-vous de Pablo Gil.
D'accord, ce sont de vrais entretiens qui ont eu lieu.
Oui, oui, c'est des entretiens qui ont eu lieu et qui, c'est des petits extraits qui s'immiscent au cœur de l'intrigue, en fait. Et voilà, il y a pas mal d'entretiens avec des musiciens et aussi avec des scientifiques.
Très bien. C'est un livre... La pochette est très belle, j'aime beaucoup. Qui est sorti chez qui ?
Chez Alia.
Chez Alia, d'accord.
Adezelia.
Adezelia, livre qu'on peut bien entendu retrouver. Bon, donc,
à l'heure actuelle, j'en ai plus, j'ai tout vendu, mais j'en ai recommandé. Voilà. Donc, voilà.
Donc ça, c'était le double cœur.
Voilà,
double coup de cœur. Double cœur.
Ok, on va passer à David Van, Dernier jour sur Terre, que j'ai lu cet été, que tu viens de terminer, Héloïse,
que
tu as beaucoup aimé aussi.
Tout à fait.
Donc on va en parler. David Van, qui est un écrivain américain, qui est né à Ilatak, en Alaska, en 66. Alors, il a enseigné à l'université de San Francisco. Il enseigne aujourd'hui à Londres. Il est parti des États-Unis parce qu'au final, il déteste cette société américaine. Il publie régulièrement des articles dans différents magazines. Il est l'auteur de plusieurs romans. Alors, avec The True Story of Disastrous Career at Sea, vous m'excusez pour l'anglais.
Waouh! Tu veux pas nous le refaire? Juste parce que j'ai beaucoup aimé, vas-y.
The True Story of Disastrous Career at Sea. C'est le career que j'arrive à avoir.
Career.
Career at sea. C'est l'histoire du naufrage d'un bateau construit par l'auteur. Il a également proposé un recueil de nouvelles, Legend of Suicide, inspiré par le suicide de son père. Sequana Island, qui raconte l'histoire d'un père et d'un fils âgés de 13 ans partis pour vivre un an dans une cabane sur une île de l'Alaska. Alors, c'est un roman qui lui amène le succès et un roman qui a également servi de thérapie à l'auteur. David Van, il écrit ce que l'on peut appeler, enfin ce que moi j'appelle, Héloïse, tu me diras, des fictions autobiographiques. Il se nourrit de sa vie que l'on retrouve dans ses différents livres au final, mais quand même romancé, parce que sinon ça serait une autobiographie.
Oui, oui, tout à fait, parce que notamment dans le dernier titre que tu as cité, je pense qu'il expose un certain regret parce que son père s'est suicidé et avant de se suicider, il lui avait proposé de vivre avec lui en Alaska et lui avait refusé. Donc il écrit peut-être que c'est une chose qu'il regrette.
Voilà, exactement. Son père se suicide quand il a 13 ans, tout comme le personnage de ce roman. Comme tu dis, son père l'appelle, lui propose de venir passer une année complète en Alaska parce qu'ils sont séparés avec sa femme, il refuse. Et 15 jours plus tard, il est à la plage avec sa mère et sa sœur lorsque la famille reçoit un coup de fil. Son père s'est tué d'une balle de pistolet. Et pendant 15 ans, cet auteur, David Van, il sera insomniaque, la honte, la culpabilité le ronge. Son entourage ne lui est pas d'un grand secours psychologique. Sa mère, pour ses 13 ans, lui offre les fusils de chasse de son père comme seul souvenir de ce dernier. Alors, il faut rappeler qu'il s'est suicidé avec un de ses fusils. Alors, il n'a pas vu la dépouille de son père. Il raconte autour de lui qu'il est décédé d'un cancer. Enfin, ouais, pas joyeux, joyeux. Pendant l'adolescence, cet écrivain file du mauvais coton. Il tire avec les armes de son père sur le chien de son voisin. Il s'imagine supprimer ses voisins au magnum, etc. Avant, au final, de s'en sortir et de devenir écrivain. Et il y a 6 ans, il tombe sur un fait divers à la télé. On est le 14 février 2008. Steve Kasmirzak, 27 ans, un élève brillant, se rend armé à son ancienne université dans l'Illinois. Entre 15h04 et 15h07, il tue 5 personnes, en blesse 18 avant de se donner la mort. Voilà, une nouvelle tuerie dans les universités américaines. Et là, l'auteur se demande comment ce jeune homme en est arrivé là, comment lui-même s'en est sorti alors que cet étudiant vient de commettre l'irréparable. Les médias américains qui couvrent le fait divers mettent en cause les jeux vidéo, d'autres la musique gothique qu'il écoute, d'autres les films d'horreur. Alors c'est le jour de la Saint-Valentin, on parle de séparation amoureuse qui aurait mal tourné. Et au final, personne, aucun média ne s'intéresse vraiment à ce tueur, parce que c'est un tueur, ne s'intéresse vraiment pourquoi au long chemin de croix de ce jeune homme de 27 ans. Et partant de là, David Van va alors rencontrer tous les amis de Steve Kasmirzak, ses professeurs, lire l'ensemble des rapports de police. Et donc, dans Dernier jour sur Terre, ce roman fait un parallèle entre sa vie qui aurait pu déraper, et surtout sur celle de ce jeune tueur, et essaye de montrer au final que c'est aussi une victime, que ce sont un ensemble de faits qui l'ont amené un jour de février à commettre cette tuerie. Alors, on ne sort pas indemne d'un roman comme celui-là. Moi, j'ai trouvé ça
pourquoi
extrêmement intéressant. Non, mais c'est dur à lire parce qu'on suit l'évolution de ce jeune. Voilà, on vit dans lui, quoi, de toute sa jeunesse. C'est quelqu'un qui est hyper angoissé, qui est victime de troubles obsessionnels compulsifs. C'est un suicidaire. Il a un problème d'orientation sexuelle. Sa mère pense qu'il est fou et l'empêche de sortir. Elle ferme les volets et regarde des films d'horreur en plein après-midi avec lui. C'est la tête de turc du lycée. Il est pris pour cible par les jeunes sportifs. Il se réfugie dans le gothisme, sa sœur le déteste, on l'envoie dans des foyers des hôpitaux psychiatriques, il est médicamenté, il part à l'armée, il trouve des gens qui lui disent quoi faire, alors il est content, il apprend au final juste à tuer des gens sans éprouver de compassion et il est viré quand on apprend qu'il a fait des tentatives de suicide. L'armée américaine, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils le relâchent dans la nature comme ça, ils ont juste appris à tuer. Voilà, l'auteur.
C'est un concours de circonstances, quoi.
C'est tout un ensemble de circonstances, de faits, et l'auteur essaye de montrer justement que voilà, c'est cet ensemble de faits généré notamment par la société américaine. Il y a dans ce livre une critique de cette société, hein, des ventes d'armes en libre service, de tout ce dont je viens de parler, qui l'ont amené là. Et voilà, et on suit l'évolution de ce jeune jusqu'à la tuerie à ce jour fatidique. Et c'est vraiment prenant. Je sais pas comment tu l'as ressenti, Héloïse.
Moi, tout comme toi, ça m'a vraiment touchée, ce livre. Et c'est vrai que de voir tout ce processus qui amène quelqu'un à commettre l'irréparable comme ça, c'est vraiment touchant et choquant. Donc c'est un très bel ouvrage. Moi, ça m'a évoqué, dans ce style un peu sec américain aussi, un ouvrage de Truman Capote qui s'appelle « De sang-froid » et qui est vraiment un roman reportage. Enfin, c'est le roman fondateur des romans réalité-reportage aux États-Unis. Et je trouve que ça s'inscrit vraiment dans cette veine-là, quoi. Et c'est très, très fort.
Voilà, David Vann a retrouvé à La Lorgnette, Dernier jour
voilà,
sur Terre.
C'est aux éditions Gallmeister.
Et Nico, oui ?
Oui, tu voulais pas nous lire un petit passage ?
Ben non, Hélène a oublié le livre.
Finalement, tu te prends d'amitié un petit peu. Enfin,
ouais, j'avais bien envie de savoir comment est écrit,
il va falloir aller l'acheter à La Lorgnette pour le savoir.
Ou le lire à la bibliothèque.
Mais oui, on rentre. Au final, cette tuerie arrive et on sait que ça doit arriver. Voilà, quand on voit tout ce qui lui arrive à ce jeune homme, on sait que ça doit arriver. Et l'auteur a vraiment bien décrit cette personne comme une victime, ce qui est.
Parce qu'il a fait un parallèle avec sa propre vie.
Voilà, mais le parallèle est très court. Il n'y a pas vraiment beaucoup de paragraphes sur la vie de David Vann.
Au début, en fait, où il exprime effectivement une certaine ressemblance dans leur enfance, mais après, lui, il s'en est sorti et il se
populaire. Et qu'en fait, c'est pas qu'un concours de circonstances, c'est une accumulation de situations qui amènent les hommes à devenir ce qu'ils sont, quoi.
Oui, et le fait est qu'aux États-Unis, comme les armes sont en libre service, ça arrive plus souvent que chez nous, que les gens commencent pètent un câble et fassent une tuerie.
Suite à cette tuerie, on a proposé dans l'Illinois de restreindre, pour vous dire, la vente d'armes à une arme par personne par mois, ce qui fait quand même 12 armes par an par personne, quoi. Et ça a été refusé. Les lobbies des armes ont dit non, il faut qu'on continue, on peut en vendre tant qu'on veut. Voilà, David Vann a vendu 13 000 exemplaires aux États-Unis de ce livre. C'est vous dire.
C'est très peu.
Pour 250 millions d'habitants, c'est ça ?
Voilà. Un livre excellent, vraiment. Je vous conseille d'aller l'acheter de ce pas. Vraiment excellent. On revient avec Hélène Nadia Galli, La Belle de l'Étoile.
Alors, La Belle de l'Étoile, c'est un livre complètement différent de ce que tu viens de nous dire. L'histoire se passe à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est l'histoire d'une femme mariée, enfin une jeune femme mariée, qui a un amant. Son amant lui demande de choisir, elle choisit son mari. Donc son amant se suicide. Et elle a beaucoup de mal à supporter ce suicide et elle se fait muter à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle travaille comme...
Waouh, Saint-Pierre-et-Miquelon.
C'est la seule personne
qui a choisi. On est combien ? 1, 2, 3.
C'est un beau pays.
C'est
très, très beau.
Non, mais c'est magnifique. Hein.
C'est
mais
magnifique.
Bon.
Pour les vacances.
Enfin, j'y suis pas allée, j'ai fait que lire le livre. Mais... Donc, elle devient contrôleur aérien à l'aéroport de Saint-Pierre. Et elle nous raconte sa vie tout au long de ce périple. Mais alors le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à oublier Sorge, son amant. Et elle décide, avant de partir, de se faire envoyer tout son courrier chaque semaine, tout le courrier qu'il y a écrit, toutes les lettres. Et elle les reçoit toutes les semaines, elle reçoit une lettre de son amant qui est décédé. Voilà, donc on...
C'est assez glauque quand même. C'est... Comment faire quoi.
C'est glauque, mais bon, mais elle est un peu dévariée quand même.
Ouais,
c'est pour
un peu dérangée.
Elle est un peu dérangée, oui, parce que, par exemple, elle boit beaucoup, elle ne mange rien. Elle a brisé les miroirs de sa maison pour ne plus voir son image. Elle se tient au garde-à-vous nue dans la nuit glaciale, etc., etc., etc.
Enfin, bah, Ludo, il y a pas que toi.
De... Voilà.
J'allais venir pour toi.
Non, mais je...
Donc, cette femme, elle est complètement cabossée par la vie, la culpabilité du suicide de son amant.
Et son mari
l'a suivi. Elle pas, en fait.
Son mari l'a pas suivi. Non, elle a quitté son mari. Elle a quitté son père, et on ne parle pas de sa mère, et au début du livre.
Son mari n'est pas parti avec une jeune lors d'un speed dating. Ce n'est pas, pas lié à l'autre histoire de tout à l'heure. Ça n'a rien à voir.
Non, non. Et elle n'est pas grosse. Elle est pas grosse.
Est-ce qu'on le conseille,
ce livre ? Il mange tout.
On le conseille ?
Est-ce qu'on le conseille à nos auditeurs ?
Bien sûr, sinon j'en aurais pas parlé.
On le conseille.
Alors pourquoi on le conseille ? Parce que qu'est-ce qui t'a plu finalement dans ce bouquin ? C'est assez glauque quand même dans l'histoire.
C'est assez glauque dans l'histoire, oui, mais bon, il y a une très belle description de Saint-Pierre-et-Miquelon qu'on ne connaît pas du tout. Ce n'est pas un endroit dont on a
le personnage est attachant peut-être.
Le personnage est attachant. Bon, elle est un peu crispante par moment parce qu'on a envie de lui dire. Mais au lieu de dire que t'as fait mange, tu vois, on a envie vraiment de la. De la booster. Mais bon, je ne raconte pas la fin parce que c'est un peu son purgatoire. Puis après, voilà, il faut aller au bout.
La Belle et l'Étoile, c'est le Thalassa de Saint-Pierre-et-Miquelon, livre, n'hésitez pas, Nadia Galli. On commence déjà à être vraiment.
C'est chez Albin Michel.
C'est chez Albin Michel.
Nadia Galli, elle a déjà écrit autre chose
qu'on connaît. Oui, elle a écrit
beaucoup. Elle a écrit Alger, L'Avoir Galant et Le Cimetière de Saint-Eugène. C'est une... En fait, ce n'est pas un auteur, c'est une. Une architecte.
À la base, oui, d'accord. Ouais, on a des architectes, des chercheurs dans la radiation nucléaire.
Voilà, elle se revendique comme architecte. Elle a construit l'aéroport, l'inspection académique et la chambre de commerce de Saint-Pierre.
Ah oui, d'accord. Donc, elle a une belle connaissance de...
Oui, elle y est restée 6 ans.
D'accord.
Donc, c'est pour ça qu'elle a des très, très belles descriptions.
Presque un peu autobiographique, non, ce bouquin.
Pas autobiographique, non, non.
C'est pas sa propre histoire.
Non, non. Je pense pas, je la connais pas, mais je pense pas, non.
Bon, il faudra faire des recherches, Hélène.
Oui, je vais prendre rendez-vous.
Allez, on est en retard, on va faire une pause musicale qui va avoir un lien avec le dernier livre qu'on vous présente. Et Louise vous expliquera pourquoi, une pause musicale avec Boris Vian. Et le titre,
Johnny,
Nico.
Fais-moi
mal, Johnny, et chanté par Jeanne Moreau.
À mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Me fais-moi mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait boum.
Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal.
Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, Johnny, 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 pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, Johnny, 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 j'aime pas l'amour qui fait bing.
Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal.
Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en me laissant une épaule démise. Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai, fais-moi
fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Non, mais fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Oh, Johnny.
Oh, la vache. Oh, j'en ai marre, alors.
Voilà, Boris Vian, pourquoi Louise Boris Vian et pourquoi cette chanson, c'est un lien
Oui, parce que dans cette chanson, il y a une certaine forme de perversité. Et dans le roman que je vais vous présenter, il y en a beaucoup de perversité.
Ismaël Jude, Dancing with Myself.
Oui, aux éditions Verticales. Voilà, donc c'est un roman qui raconte en fait la découverte de la sexualité par un jeune homme. Les premiers émois, les questionnements voilà, sur tout ce monde inconnu quand on est gamin. Et donc le contexte...
À partir de quel âge
on peut le lire à partir de quel âge?
Non, la sexualité. Il a quel âge?
Ça commence, il doit avoir 8-9 ans.
Ouais. Ouais, c'est tôt quand même.
Il est précoce.
Ouais. Bah, on se pose des questions...
Tu vois, Ludo?
C'est tard pour moi, 8-9 ans.
Non, c'est pas trop tôt pour se poser des questions.
Non, c'est pas trop tôt pour se poser des questions, Nico.
Bah, je pense qu'ils s'en posent même, on s'en pose à tous.
À tout âge.
À tout âge, des questions sur la sexualité, non?
Oui, bah, enfin voilà, là ça commence,
ouais, ça
8,
commence
9 ans,
à 8-9 ans. D'accord.
Et donc il habite en race campagne, ses parents tiennent un dancing qui fait des fois striptease aussi. C'est assez glauque comme milieu, enfin, on imagine bien voilà, ce milieu. Avec, à côté il y a une ferme et juste à côté le dancing dans une espèce de hangar d'entrepôt.
Mais ça se passe
C'est aujourd'hui. Il doit avoir grandi dans les années 80, Ismaël Jude. C'est pas autobiographique, mais voilà, ça se passe.
D'accord, mais c'est. Ouais.
Voilà. Et donc, il y a des moments très glauques, très dérangeants. Ça secoue un peu. À un moment donné, il s'adresse directement aux lecteurs, aux lectrices en particulier. Et c'est vraiment assez bizarre, mais c'est bien, justement, que ça fasse bouger un peu. Il y a des moments très touchants. Notamment, quand il est petit, il entend ses copains parler de chatte. Alors voilà, il se dit y a un animal en fait entre les jambes des femmes. Il imagine un chat et il essaye de trouver un chat. Enfin, c'est très touchant et drôle. Et ensuite, il y a aussi des moments de grande beauté. Notamment, il utilise beaucoup le champ lexical de la botanique pour parler des organes génitaux, enfin de tout ça. Et
les fleurs,
ça apporte
tout ça.
Une certaine poésie, ouais.
Les orchidées.
Voilà, ouais, peut-être des noms plus scientifiques encore, qui emprunt un peu d'exotisme, c'est chouette. Et donc voilà, ce livre, c'est une sorte...
Il me touchait le haricot.
Il a dit de la poésie.
Ah, pardon. C'est 8-9 ans, hein, c'est à peu près ça.
C'est ça, 8-9 ans.
Oui, donc c'est une sorte d'apologie du voyeurisme, de la perversité, c'est vraiment l'art de la perversité qu'on nous expose là. Et donc c'est un roman qui change, qui est vraiment original et qui touche beaucoup et qui, voilà, on se pose des questions.
Est-ce que ça peut choquer, ce roman, est-ce qu'il peut choquer?
Oh non, enfin ça dépend
des personnes. Il peut nous perturber un peu peut-être, c'est ça?
Oui, c'est perturbant, ouais, ça c'est perturbant. Clair, ouais, c'est perturbant, mais voilà. C'est très bien, c'est bien écrit, c'est très beau.
Et donc, à partir de quel âge est la lecture du livre?
Finalement,
ouais, il faut être adulte pour adulte. Lire. Oui, oui, quand même.
Ouais, Ismaël Jude, Dancing with Myself, aux éditions...
Verticales.
Aux éditions Verticales.
Il a écrit autre chose, Ismaël Jude?
Alors, j'en ai aucune idée, figure-toi. Je vais regarder tout de suite. Oui, il a écrit quelque chose sur Gilles Deleuze. Voilà.
D'accord.
Une biographie.
Le peintre.
Le philosophe.
Le philosophe.
Mais il est originaire d'où?
Il faut l'essayer.
Il faut l'essayer.
Aucune idée.
D'accord.
Je peux pas
parce
te
que
dire.
Le titre est anglais, quoi, donc... Non, c'était pour
et
savoir
après,
si...
Dancing with Myself, ça évoque la masturbation, d'accord, tout simplement. Ouais. Voilà.
Ah, j'ai pas compris.
Tu vois, faudrait que je fasse gaffe à ce que je dis en anglais, parce que... do you want dancing with myself? À ce moment-là, tu prends une grosse claque. Si tu danses avec... je sais pas, quoi.
Non, mais ça veut dire danser avec moi-même, donc...
Ouais.
C'est explicite, quand...
Voulez-vous danser avec moi-même?
Allez, un roman qui peut choquer, un livre qui peut choquer avec Valérie, Le Mouton Farceur, une aventure du petit B, Dindon, Dingo. On passe au livre jeunesse en cette rentrée littéraire, ouais. Valérie.
Oui, découverte de la sexualité aussi, mais à travers les moutons. Hein.
Absolument pas. Là, on va plus sur la scato. Non. Non, c'est deux livres, en fait. C'est des petits albums jeunesse. Et comme Héloïse tout à l'heure avec Au-delà de l'horizon, les avions n'existent pas, qui était son coup de cœur plus, et bien moi je mets deux petits cœurs à ces deux albums. Donc Le Retour de Petit Bay et Dindon Dingo, le dindon de la farce et le mouton farceur. C'est donc pour les enfants À partir de 2 ans pour les images, à partir de 6 ans pour les parents qui lisent des petites histoires à leurs enfants, et après ça peut se lire jusqu'en... Il n'y a pas d'âge limite. Voilà, c'est très drôle en fait. C'est, donc,
l'illustration est de qui?
Alors c'est Mark et Rowan Somerset, c'est un couple. Mark c'est monsieur et c'est lui qui écrit les petites histoires, et Rowan c'est son épouse et qui est illustratrice. C'est un D'accord. couple qui vient de Nouvelle-Zélande. Ils vivent tous les deux avec leur petit garçon sur une petite île de Nouvelle-Zélande. Et malgré tout, ben, ils sont isolés, mais ils ne manquent pas d'humour. En fait, c'est une histoire d'un petit mouton qui s'ennuie et qui voit passer un dindon.
Mais...
Alors, le dindon, ce n'est pas tout à fait ce bruit-là, mais...
Non, mais il voit passer le dindon, mais...
Mais... Ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Et en fait, il a à côté de lui un petit tas de crottes et il propose au dindon de goûter ses pastilles à malice. Car ces petites crottes sont des pastilles qui rendent malin. Et le dindon, ben, à force de persuasion, se laisse avoir et goûte ses petites crottes à malice. Alors, est-ce qu'il va devenir plus malin? Ça, je vous laisserai le voir dans l'album. Et le deuxième album, donc, le dindon de la farce, c'est le dindon qui veut se venger. Et sa vengeance va être terrible.
C'est la suite.
C'est la suite. Ouais. C'est très, très drôle. Et c'est très facile à lire.
Oui, c'est très humoristique. Voilà. Même les dessins sont
Les dessins sont super bien faits.
C'est sombre comme image.
Voilà. Pour ceux qui avaient lu l'histoire de la petite Top qui cherchait à savoir qui lui avait fait sur la tête.
Bah ça, tu peux lire, Ludo, c'est écrit gros.
Oui, c'est écrit gros, en 5 minutes, tu
l'as vu. Je lis, moi.
Voilà,
c'était... Alors, tu peux lire à ton fils aussi. Hein.
Mais je lis des histoires à mon fils. Tu lui lis David Van, Le dernier jour sur Terre, il a beaucoup aimé.
Tu pourrais lui lire
des histoires. Et puis, il se met juste dans le film, Miss Majestef. Mais attends un peu.
Voilà. Non, c'est très très drôle et facile à lire. Je le conseille aux enfants.
D'accord,
c'est
aux enfants, aux enseignants, peut-être le maternel.
Aussi, voilà. Ouais. Et en fait, je lisais sur des
blogs. Aux assistantes maternelles.
Ouais, même un CM2, une classe de CM2 qui a travaillé dessus. Travaillé dessus. Voilà, pourquoi pas. Voilà.
C'est écrit à la première personne, c'est ça?
Oui, puisque ce sont des dialogues en fait. C'est comme une BD, plus ou moins.
Oui, voilà. Ça peut être même un peu théâtralisé, non?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Pour les petits, si on veut commencer à jouer, ouais. etc. Tu fais le dindon, qui fait les crottes?
C'est ça.
Les autres.
Non, c'est vraiment drôle et c'est aux éditions Milan.
Voilà, les albums jeunesse dans cette émission, il y en a pour tous les âges, albums jeunesse, romans, et également les albums ados, et Héloïse, deux livres que tu veux nous présenter. Tout d'abord, Matt Egg, Humain.
Oui, chez Helium, aux éditions Helium. Humans. Donc, Humans. Tout à fait. Donc, je vais vous faire un petit résumé. C'est un grand scientifique britannique qui résout un grand problème scientifique. C'est l'hypothèse de Riemann. C'est un problème qui existe réellement dans notre monde. Et donc, les extraterrestres ne sont pas du tout d'accord avec le fait que quelqu'un ait trouvé la solution à cette hypothèse, parce qu'ils estiment que l'humanité n'est pas prête à accueillir tant de changements technologiques et de perspectives nouvelles, en fait. Parce que ça changerait nos vies, en fait, si on résolvait ce problème.
Donc l'hypothèse de Riemann, en fait, tu peux nous en dire un peu quelque chose dessus ou ça dévoile trop?
Suite à la lecture de ce livre, effectivement, j'ai passé des heures sur Wikipédia, sur Internet, à essayer de comprendre l'hypothèse de Riemann. Et je n'ai toujours pas compris. D'accord. Donc
tu ne l'as pas résolu?
Non, pas du tout. Et je n'ai pas gagné $1 million pour ça.
Dommage.
Mais... ce qui est bien dans ce livre, effectivement, c'est qu'on arrive à intéresser des gens aux mathématiques et aux sciences, comme moi, parce que c'est peut-être un cliché, mais moi, j'ai jamais aimé ces matières-là. Et suite à ça, j'ai vraiment passé des heures à me creuser la tête et à essayer de trouver des choses. Donc, c'est intéressant.
Quel âge, à peu près?
Quel âge? C'est à partir de 13 ans, de 12-13 ans.
Ouais. Voilà, c'est pour les adolescents, à partir de 12-13 ans. Tout à fait. Un conseiller, Matt Egg, Humans. La maison d'édition, on la connaît ou pas?
Helium.
Tu veux nous parler aussi de Gaëlle Aymon, Oublier Camille?
Oui, alors ça, c'est un court roman de 75 pages. C'est une petite pépite qui raconte, en fait, c'est Yanis, le narrateur, qui raconte son histoire d'amour avec Camille. Le début, le milieu, la fin. C'est très touchant, très poignant, très actuel. Enfin, moi, je me suis sentie un peu vieille en sortant de ce livre. Pourtant, j'ai 24 ans. Donc voilà, c'est très chouette aussi. Ah bah, j'ai pas honte de mon âge quand même. Et c'est chez Actes Sud. Oubliez Camille.
Oubliez Camille, Gaël Aymon, donc, et Matt Egg, Humans. On rappelle les livres jeunesse aussi de Valérie, Le Mouton Farceur, Une Aventure de Petit B et Dindon Dingo, et la suite, Le Retour de Petit B et Dindon Dingo, Le Dindon de la Farce.
C'est ça.
C'est ça. Une exposition, avant d'écouter le second morceau et de clôturer cette émission, Nico, tu voulais nous parler d'une exposition. Hélène, c'est bien que tu sois là parce qu'elle est en place à la bibliothèque de Mende, une exposition sur les arbres. Peut-être, Hélène, je vais te laisser en parler jusqu'au 27 septembre.
Oui, c'est une exposition photo sur les arbres de Lozère, réalisée par Michel Saroui, qui est un membre du Photoclub Mendois. Et j'ai trouvé que dans cette exposition, c'était sympa la façon dont il l'avait présentée. Il y a une petite touche d'humour. Et aujourd'hui, il y a un article notamment sur Midi Libre, si vous en voulez en savoir un petit peu plus. Sinon, venez la voir, vous verrez, c'est des arbres vus différemment de ce qu'on est habitué à voir.
Des photos prises par toute saison, par tout temps.
Par toute saison, par tout temps, par toute forme. Moi, j'ai bien aimé cette expo. Elle est sobre, mais elle est belle.
Voilà. Alors, peut-être dire aussi qu'il y a à Rodez un musée qui vient d'ouvrir, le musée Soulages. Mmh. Voilà, un très très beau musée, assez remarquable sur l'œuvre contemporaine de Soulages, qui a travaillé sur le noir, sur la plasticité du noir, sur la matière en fait. On parlait tout à l'heure des bouquins sur la matière. Ben là, c'est vraiment un super beau travail. Alors, Rodez, c'est à 1h15. Et franchement, avoir un musée de renom comme ça. Il va avoir Il va avoir une reconnaissance nationale et internationale. Aller visiter. Bon, déjà architecturalement, c'est un très très beau musée. Apparemment, il y aurait des problèmes techniques, tout ça. Mais bon, hormis ça, il y a quand même une grosse quantité d'œuvres que lui a fourni aussi. Il a un fait don, je crois. Et en plus, il est toujours vivant, Soulages. Donc c'est intéressant de voir ce travail-là. En complémentarité de ce musée, vous pouvez aller à côté.
Musée Fenaille,
voilà. Non, je cherchais le petit village à côté d'Estaing.
À Conques,
voilà. Puisqu'il a fait les vitraux de l'église de Conques, voilà, qui est un super beau travail aussi. Donc ça fait une journée à proximité comme ça autour de Rodez, qui est assez sympathique à faire et voilà, c'était bien de le dire. Voilà.
Donc, on reste aussi au musée Soulages. C'est un très bon resto.
Oui, Brasserie de chez Brasse.
Ah bah oui, d'accord. Voilà. Oui, bah, j'avais pas toutes les infos.
Voilà, dans cette émission, on va essayer de vous parler de l'actualité aussi, d'exposition, de culture, tout ça. Là, on n'a pas pris trop de temps parce que la rentrée littéraire, eh ben, on avait beaucoup à dire. Mais voilà, on va essayer de vous parler de sorties comme ça, d'actualité, de propositions.
On espère en tout cas que ça vous plaît d'entendre voilà, une émission littéraire, d'entendre aussi d'autres intervenants, d'autres gens qui aiment qui ont la passion du livre et de la lecture. Faites-nous savoir si vous avez des coups de cœur aussi, donc par notre Facebook ou par directement le...
Par téléphone ou en venant à la radio ou en allant voir Héloïse voilà, à la librairie La Lorgnette ou à la bibliothèque de Mende.
Voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller dans les librairies, dans les bibliothèques.
Et on vous donnera le numéro de Valérie, le portable, après la chanson et après un petit rappel des livres proposés. La chanson, Héloïse, tu nous proposes quoi?
Tu veux pas dire le nom, non?
Non, du tout. Je vais l'oublier.
C'est Jabberwocky et ça s'appelle Photomaton.
It seems to
voilà reparti pour la fin de cette émission par le bout de la lorgnette, la première. Alors, on va vous rappeler les livres proposés, Nico.
La famille Mildestein de Jamie Attenberg. Un jour, la guerre s'arrêta de Pierre Bordage. Dans les avions, l'horizon n'existe pas de Augusto Fernandez Malon. Dernier jour sur Terre de David Van.
Aurélien Delso, tu as oublié de pour Madame Diogène.
Ah, et Dancing with Myself.
C'est pas fini, Louis.
La belle étoile de Nadia Gali.
La belle de l'étoile.
Voilà, un ouvrage qui raconte.
Saint-Pierre et Miquelon.
Où il a vécu 6 ans. Dancing with Myself, pour adultes, donc. d'Ismaël Jude. Humans de Matt Haig. Oubliez Camille de Gaël Aymon. Et ensuite, en littérature jeunesse, donc Le Mouton Farceur en aventure de Petit Bé et Dingo Dindon, et Le Retour de Petit Bé et Dingo Dindon, le Dindon de la farce.
Voilà, et Humain oublié Camille, donc c'est des romans ados. On rappelle un peu donc ces livres, cette sélection, vous pourrez la retrouver sur le journal Midi Libre, notre partenaire. Vous pouvez retrouver les livres, bien sûr, à la librairie La Lorgnette. Tu peux nous rappeler un peu les horaires d'ouverture et de fermeture ?
Oui, j'ouvre le lundi après-midi. Après le reste de la semaine, c'est 10h midi, 14h, 19h.
La bibliothèque de Mende.
Ouverte du mardi au samedi, inclus de 9h30 à midi et de 14h à 18h.
Valérie Trémolière.
Oui, ben mon numéro de portable. Ah, ouverte, excusez-moi, notre invité vient d'arriver.
Je croyais que tu allais dire ouverte de...
Non, je laisse la place à notre invité qui vient d'arriver pour...
Voilà. Le thème de la prochaine émission, Héloïse, donc nous allons poursuivre avec cette rentrée littéraire qui est chargée. On ne peut pas se cantonner à une seule émission.
Ça dure jusqu'en octobre, donc on aura le temps d'explorer d'autres livres.
Et on va parler de bande dessinée aussi.
Également.
Voilà, bande dessinée.
Et puis on fera un point plus précis sur les expos qu'on peut trouver. Voilà, on aura d'autres informations à vous donner.
Merci à tout le monde.
Merci, au revoir.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.